Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce grand jury. À mes côtés pour vous interroger, Alexis Brézé du Figaro. Bonjour Alexis.
Bonjour.
Et Adrien Gindre de TF1 LCI. Bonjour.
Bonjour
Adrien. Dans la question en plus, c'est Samuel Hérault de l'association L214 qui vous interpellera. Et puis bien sûr, en fin d'émission, comme d'habitude, question nette, vous pouvez toujours réagir en direct à cette émission et interpeller Marine Le Pen. Hashtag le grand jury. Alors Marine Le Pen, vous avez pris tout le monde de court en annonçant mi-janvier votre candidature pour la présidentielle de 2022. Pourquoi tant de précipitation? Est-ce pour tenter d'instaurer définitivement le duel avec Emmanuel Macron? Ou est-ce aussi pour empêcher toute velléité, toute ambition au sein de votre parti ou à sa périphérie? Et puis, pourrez-vous mener campagne avec un parti aujourd'hui criblé de dettes? Nous en parlerons dans la seconde partie de cette émission. Et d'ici 2022, eh bien la route est jalonnée d'autres échéances électorales, en particulier les élections municipales. Ce n'est pas un scrutin qui vous est a priori favorable, faute d'alliance au second tour. Alors, quels sont vos objectifs? Craignez-vous le fameux plafond de verre? Nous en parlerons également dans la deuxième partie de cette émission. Mais nous commençons par l'actualité de la semaine. Ouf. Et le coronavirus qui continue d'inquiéter. La première question vous est posée par Adrien Gindre.
Le ministre de la Santé français dit ce matin se préparer à une possible épidémie. On voit que chez nos voisins italiens, une centaine de cas ont été recensés. Il y a eu 2 morts ces derniers jours. Il y a des mesures de confinement qui ont été prises. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que doit faire la France, Marine Le Pen, pour se prémunir? Est-ce qu'il faut aller, par exemple, jusqu'à interdire les vols, les interactions avec l'Italie pour éviter que le virus ne vienne encore plus fort?
Il aurait déjà fallu peut-être suspendre les vols en provenance de Chine et depuis des semaines. Je l'avais réclamé. Seule Air France a suspendu ses vols. Sauf que, en réalité, Air China et d'autres compagnies continuent à atterrir en France. Vous voyez, au moment où on se parle, là, il y a un avion qui décolle à 13h30 de Pékin et qui atterrira à 17h45 à Paris.
Donc vous demandez aujourd'hui à nouveau l'interdiction
si
des
vous voulez,
vols.
Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique quelle est la cohérence qui consiste à faire revenir des Français de Chine pour les mettre en confinement, en quarantaine. Et dans le même temps, laisser tous les jours des avions en provenance de Chine atterrir sans aucun contrôle sur le territoire national. Ça déjà, c'est pas cohérent. Deuxièmement, je pense qu'on n'a pas tiré les leçons du SRAS, de la crise du SRAS. Aujourd'hui, on a une législation qui est très faible. Il y a un vague texte qui indique qu'on peut mettre les gens en quarantaine. Mais la réalité, c'est que si vous échappez à la quarantaine, eh bien c'est 38 euros d'amende. Bon. Deuxièmement, il n'y a pas d'obligation de soins à part pour la tuberculose en France. Il faut à tout prix qu'on élève le niveau de notre législation au niveau de danger que peut représenter une épidémie comme le coronavirus. Et puis, il y a évidemment une grave inquiétude sur nos capacités, notamment en matière de médicaments, de masques, etc. On touche là du doigt, permettez-moi, hein, mais j'ai souvent dit que la mondialisation sauvage, le modèle économique de la globalisation sauvage et de l'ultralibéralisme et des accords de libre-échange était en réalité un géant au pied d'argile. Le moindre grain de sable peut enrayer la machine. Mais là, c'est même plus petit qu'un grain de sable. C'est un virus.
Mais la France n'est pas armée pour ça, vous dites ce matin?
Mais absolument pas. La France n'est pas armée pour une raison très simple, c'est que 80% des principes actifs, des médicaments, sont fabriqués en Asie et plus particulièrement en Chine. C'est-à-dire que nous risquons de nous retrouver demain, à force d'avoir délocalisé, nous risquons de nous retrouver demain en pénurie de médicaments. J'ai interrogé le gouvernement lors des questions au gouvernement il y a quelques jours de cela, et la réponse de Mme Buzyn, qui était encore pour quelques heures ministre de la Santé, était dérisoire.
Olivier Véran, le nouveau ministre de la Santé, dit que la France est armée. Ce matin encore dans le journal du dimanche.
Non, mais il ne peut pas dire la France est armée parce qu'en réalité, aucun des pays qui ont opéré ces délocalisations massives n'est armé. Si demain, la Chine est en partie à l'arrêt, il y a déjà des grandes chaînes, notamment automobiles, qui se sont arrêtées purement et simplement. En Corée du Sud, en Europe, au Japon, parce qu'il n'y a plus pièces.
En Italie, il y a déjà.
Il n'y a plus de pièces qui arrivent. Et bien, pour les médicaments, c'est évidemment beaucoup plus grave. Donc, c'est vrai vrai que nous sommes actuellement dans un risque prochain, à court terme et peut-être à moyen terme, de pénurie d'un certain nombre de médicaments sur lesquels nous n'avons pas aujourd'hui les capacités de production. Et prenons juste l'exemple des masques. C'est intéressant, les masques. Parce que les masques, on voit bien qu'aujourd'hui, tous les masques partent vers le milieu hospitalier quand ils sont disponibles, hein. C'est-à-dire quand ils ne sont pas déjà vendus à des clients étrangers, hein, puisque par définition, eh bien, les entreprises vendent aux plus offrants.
Vous pensez qu'il y a un risque de pénurie en France de masques ?
On est, oui, probablement, d'ici peu de temps, les chirurgiens dentistes vont se retrouver avec des difficultés d'approvisionnement. Des industries qui ont besoin de masques de protection vont se retrouver en difficulté d'approvisionnement. Mais c'est toute la chaîne, si vous voulez, encore une fois, ce que je voudrais faire comprendre à ceux qui nous écoutent, c'est que c'est tout le modèle, en réalité, économique mondial qui est en train de démontrer sa fragilité.
Est-ce qu'on peut être conduit à prendre des mesures de fermeture des frontières, par exemple, par rapport à l'Italie ? Est-ce qu'il faut faire, dans certains endroits d'Italie, il y a les écoles qui sont fermées, les administrations qui sont fermées ? C'est des choses qu'il faut envisager ?
De toute façon, y a-t-il une autre possibilité que celle-là ? Si vous vous retrouvez avec une situation d'épidémie sur le territoire national, il n'y a pas d'autre aujourd'hui de moyen que le confinement.
Mais est-ce qu'il faut fermer la frontière avec l'Italie au moment où nous parlons ?
Moi je pense qu'en tout cas il faut qu'il y ait des contrôles de l'intérêt des frontières. Ces frontières qui étaient considérées comme obsolètes, eh bien les frontières en réalité sont des éléments de protection. Et or on a voulu jeter cela par-dessus l'épaule. Aujourd'hui ou demain, on s'apercevra qu'il faut peut-être effectivement qu'il puisse y avoir des contrôles aux frontières, même si encore une fois ce virus a ceci de très inquiétant, c'est que en réalité il est semble-t-il contagieux pendant la période d'incubation, c'est-à-dire et qu'en plus il y a des gens qui sont asymptomatiques.
Voilà, on peut être touché sans avoir de symptômes.
Oui, c'est vrai, tout cela est inquiétant. Mais moi, j'aimerais quand même que dans ces cas-là, pourquoi le gouvernement, systématiquement, les premières prises de parole sont toujours des prises de parole qui atténuent la difficulté. C'est rien, c'est comme une grippe.
Ils ont minimisé.
Il y a beaucoup plus de morts de la grippe que de cela. Ça n'est pas une grippe. Donc, un gouvernement doit pouvoir prévoir. Et moi, je préfère qu'un gouvernement en fasse plus. Peut-être même qu'il en fasse trop plutôt qu'il n'en fasse pas assez.
Et là, ils n'en font pas assez. Le gouvernement n'en fait pas assez, selon vous ?
Ben non, ne serait-ce que, encore une fois, en permettant les vols de continuer à atterrir.
L'OMS a minimisé le risque ?
Au départ, oui. Ouais. Au départ, oui, ils ont clairement minimisé le risque. Et puis aujourd'hui, leurs propos sont, c'est vrai, assez inquiétants, puisque l'OMS dit qu'on est face là à l'ennemi public numéro un, si
Mais
je puis me permettre.
Marine Le Pen, qu'on soit clair, est-ce que vous demandez donc l'interdiction, l'arrêt des vols en provenance de Chine ? Vous nous dites, est-ce que vous demandez solennellement au gouvernement de fermer la frontière avec l'Italie ?
Pour l'instant, l'Italie a mis en place des mesures de confinement. Donc à partir du moment où ces mesures de confinement sont sérieusement mises en œuvre et respectées, il n'y a pas de raison éventuellement de fermer la frontière. Mais peut-être que ce sera nécessaire si l'épidémie, évidemment, est hors contrôle en Italie.
Alors, autre sujet d'actualité, c'est bien sûr le salon de l'agriculture qui s'est ouvert hier avec la visite très longue du président de la République et des négociations qui ont achoppé sur la politique agricole commune. Adrien Gindre.
L'ouverture, c'était donc hier, l'échec avant-hier. Le président de la République a expliqué que les conditions n'avaient pas pu être réunies avec les autres dirigeants européens pour préserver la PAC dans le budget européen puisqu'il n'y avait pas d'accord. Est-ce que vous, Marine Le Pen, vous souhaitez que la PAC soit préservée ? Est-ce que vous êtes pour, tout simplement, l'existence et le maintien d'une politique agricole commune européenne ?
Si vous voulez, en l'état, elle existe. Moi, je me souviens, pendant la campagne présidentielle, on nous avait expliqué que c'était Marine Le Pen qui souhaitait la fin des subventions pour les agriculteurs. Ce qui était d'ailleurs un mensonge éhonté.
Vous parliez de la politique réalité, agricole française,
la réalité,
Marine Le Pen, à l'époque.
C'est que c'est sous Emmanuel Macron que la PAC va baisser dans des proportions qui sont extrêmement importantes. Donc c'est maintenant qu'Emmanuel Macron doit faire preuve de fermeté à l'égard de ses partenaires.
C'est ce qu'il a fait jeudi et vendredi, non ?
Oui, enfin, le problème, c'est que c'est un peu la présidence de la parole, Emmanuel Macron. Hein. Il y a beaucoup de verbes, il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup de fermeté dans les mots, mais bien souvent dans les actes derrière, c'est une véritable catastrophe. Et c'est le laxisme absolument total. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Il faut évidemment s'opposer au transfert du budget de la PAC vers d'autres politiques, puisque c'est ce qui est prévu. Une partie vers le Green Deal, une partie...
Environnement, défense, numérique, c'est ce que dit la Commission européenne.
Et puis migration aussi, hein, et puis gestion des migrants aussi, on oublie de le dire, mais c'est une réalité. Il faut évidemment maintenir l'enveloppe française telle qu'elle est actuellement, c'est-à-dire de 9,1 milliards d'euros par an pendant la période concernée.
Mais comment vous contraignez les autres pays européens à accepter ça, si les autres pays européens ont envie d'aller vers autre chose ?
Comment est-ce qu'on si les pays européens veulent tuer l'agriculture française, comment on fait ? Bah, je crois qu'il faut à ce moment-là reprendre nos billes, hein, sur l'agriculture. Parce qu'il y a un moment donné, si, vous voulez, si votre voisin veut vous tuer, qu'est-ce que vous faites ?
Mais ça veut dire
vous
quoi,
le laissez vous tuer
Marine Le Pen ?
Si le type de la copropriété, si un de vos copropriétaires veut votre mort, vous faites quoi ? Eh bien, vous vous défendez et vous dites, ben, c'est pas possible, alors je vais peut-être.
C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on, qu'on arrête de verser notre part au budget européen ?
Ben, c'est-à-dire qu'on garde notre part et on la redistribue directement à nos propres agriculteurs. Mais au-delà de ça, la première des vraies questions qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il faut continuer à laisser l'agriculture dans les accords de libre-échange ? Parce que aujourd'hui, enfin plutôt il y a 10 jours, le Parlement européen a à nouveau voté un nouvel accord de libre-échange avec le Vietnam, qui vient se surajouter au CETA, au Mercosur, qui n'a pas été écarté, qui est encore en négociation, à l'accord de libre-échange avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande. Tous ces éléments-là étant des éléments qui vont purement et simplement tuer notre agriculture. Donc il faut à tout prix maintenant qu'on porte une exigence que l'agriculture, la nourriture n'est pas un bien comme un autre et que par conséquent, elle doit sortir des accords de libre-échange.
Aujourd'hui, notre agriculture, elle est très exportatrice. L'excédent de l'agroalimentaire, ça va être 8 milliards et l'agriculture aussi. Donc si on fait ça, un certain nombre d'agriculteurs ne pourront plus exporter leur production. Alors on fait quoi pour cela ?
Mais absolument pas. On transforme les accords de libre-échange en accords bilatéraux entre pays. Et ainsi, on peut préserver des domaines qui sont des domaines fragilisés, sensibles ou stratégiques sur notre territoire. Parce que le modèle, M. Brézé, qu'on est en train de mettre en œuvre, vous savez ce qui va avoir comme conséquence ? Eh bien, cette merveilleuse nourriture française, qui est de haute qualité, qui est la plus sûre du monde probablement, eh bien, elle sera réservée aux riches Chinois qui pourront se la payer. Et quant aux pauvres Français, eh bien, eux, ils mangeront les poulets pourris qui nous arrivent du Brésil ou les saumons transgéniques du Canada. Moi, je ne veux pas ça.
On entend votre attachement. Alors, on s'interroge parce qu'en même temps, on attend votre attachement à la politique agricole connue. En même temps, vous n'avez de cesse de critiquer cette Europe. Donc là, pour l'agriculture, elle a des vertus.
Mais monsieur, pardon, elle fait absolument l'inverse de ce qu'il faut faire. Mais si ce n'était pas le cas, nos agriculteurs seraient très contents. Pourquoi nos agriculteurs sont si mécontents, d'après vous ? Parce que ce sont des râleurs ? Non. Parce que la réalité de la politique agricole commune aujourd'hui et la manière dont elle est gérée va à l'encontre de leurs intérêts. Pourquoi ? Moi, je vous pose des questions, puisqu'on parle de l'Union européenne.
Rien que pour ça, l'Union européenne a sa
raison d'être.
Pourquoi
est-ce qu'on ne donne pas raison aux agriculteurs sur leur réclamation de traçabilité ? Puisqu'aujourd'hui, nous ne bénéficions que d'une dérogation pour pouvoir mettre en œuvre la traçabilité. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas la traçabilité pour les produits transformés ? Pourquoi est-ce qu'on continue à importer des productions qu'on n'a pas le droit de produire en France ? C'est-à-dire des productions qui ne respectent pas les mêmes normes,
lesquelles,
très exigeantes.
Lesquelles, Marine Le Pen ? Quelle interdiction ?
Mais 1000, monsieur Sportouche, 1000 ! 1000 le bœuf américain, les cerises qui sont produites avec un insecticide qui est interdit en France. Je pourrais vous donner 1000 exemples. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ce que d'ailleurs réclame la FNSEA, avec laquelle je suis pas toujours d'accord, mais sur ce sujet je suis d'accord. Importons uniquement l'agriculture que nous voulons, c'est-à-dire celle, encore une fois, que nous produisons et qui respecte des normes qui nous obligent et qui sont un déficit de compétitivité pour nos agriculteurs, parce que ça coûte plus cher de respecter ces normes-là. Mais c'est un choix de société. Et ce choix de société-là, eh bien, il faut que nous l'assumions et que nous le défendions.
Alors, un mot sur le président de la République. Hier, on le disait, il a inauguré le Salon de l'agriculture. L'accueil a été plus cordial que par les années précédentes. Ça s'est relativement bien passé. Il y a eu un petit moment qui a été remarqué, c'est le moment où Éric Drouet, ancien gilet jaune, a été momentanément interpellé, placé en garde à vue pour rébellion, après avoir essayé de s'approcher du chef de l'État. Est-ce que vous saluez l'action des policiers qui ont évité que la visite
ne soit perturbée ? Moi, je ne vais pas commenter les agitateurs professionnels qui cherchent le moment de buzz, qui cherchent à ce que vous parliez d'eux d'ailleurs aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, je vais vous dire, c'est que le Salon de l'agriculture ne devienne pas un musée. Vous voyez ? Où on va voir comment ça se passait avant. Ah, ça a disparu, j'aimerais bien savoir comment ça se passait avant. Comme il y a aujourd'hui en France des musées de la chaussure, parce qu'il n'y a plus d'industrie de la chaussure. parce qu'il n'y a plus d'industrie textile, parce qu'il n'y a plus de sidérurgie. Moi, ce que je vois, c'est que l'agriculture française a un avenir extraordinaire pour peu que l'État stratège la défende. Oui. Parce que le monde est de plus en plus, comporte de plus en plus d'humains. Et que ceux-ci ont besoin de se nourrir, ils ont besoin de sécurité,
personne
ils ont besoin de qualité,
et
nous avons les capacités de faire une grande agriculture, une puissance que nous étions et que nous ne sommes plus. Voilà, les agriculteurs, il y en a 10 fois moins aujourd'hui qu'il y en avait après la Seconde Guerre mondiale.
Juste un mot sur le glyphosate, le président de la République a reconnu que ce serait très compliqué d'arriver à mettre en œuvre l'interdiction. Vous en pensez quoi? Il faut revenir sur l'interdiction du glyphosate?
J'en pense que le président de la République devrait tourner sa langue dans sa bouche 7 fois avant de faire des promesses qu'il n'est pas capable de tenir. Parce que c'est ça le problème. Quand on est président de la République, on ne dit pas qu'on va interdire le glyphosate tout en sachant pertinemment qu'on n'est pas en situation aujourd'hui parce qu'on n'a pas en réalité de substance de remplacement de manière massive pour le faire.
Et si vous arrivez au pouvoir, vous le réautorisez?
Moi, je pense qu'il faut se donner un délai pour pouvoir remplacer le glyphosate. C'est clair.
De combien de temps?
Et il faut investir aussi dans la recherche, parce que c'est pas le tout, mais il faut trouver...
On parle à quelle échéance, Marine Le Pen?
Mais comment voulez-vous que je vous donne une échéance? À quelle échéance on va trouver le virus? On va trouver le vaccin contre le coronavirus? Ça dépend du travail des chercheurs. Donc ça dépend des investissements que l'on accorde.
On l'interdit pas tant qu'on n'a pas trouvé la solution de remplacement.
Mais on l'interdit pas tant qu'on n'a pas trouvé, évidemment. Même si, encore une fois, sur le sujet du glyphosate, il faut se poser des questions. Moi, je me les pose. Mais il n'y a pas que le glyphosate. Ça vous ennuie pas que je parle une toute petite minute du chlordécone? Parce qu'on ne parle jamais de l'outre-mer. On ne parle jamais, en l'occurrence, des Antilles. Ils sont confrontés à un problème sanitaire majeur pendant des années et des années, alors que toute une série de pays, dont les États-Unis, avaient considéré cette substance du chlordécone cancérigène, eh bien, pendant des décennies, on a continué à l'autoriser en France dans les cultures. Aujourd'hui, l'outre-mer se retrouve dans une situation qui est terrifiante. Il faut un grand plan d'aide. J'ai pas l'impression, encore une fois, que face à cet enjeu, pourtant il aime bien se peindre en vert, mais j'ai pas l'impression que M. Macron soit à la hauteur de l'enjeu pour nos Antilles.
Alors, puisqu'on parle agriculture, il y a aussi une polémique qui a ressurgi cette semaine, c'est celle de l'abattage rituel. Celle de l'abattage rituel.
C'est pas une polémique.
C'est une vraie question.
Alors, vous allez
c'est
une polémique. Alors,
vous
rectifiez, bien sûr, Alexis Brézé a raison. Et c'est après la fermeture. Enfin, un abattoir qui a été révélé, dont les méthodes ont été révélées par L214, en estimant, L214, cette association de protection du bien-être animal, que les choses n'étaient pas faites dans les règles de l'art. Est-ce que vous, Marine Le Pen, vous êtes pour la fin de l'abattage rituel? C'est une des méthodes qui est utilisée dans cet abattoir de Dordogne. Abattage rituel musulman.
Moi, je suis frappée, si vous voulez, de voir. Je suis frappée d'avoir vu le président de la République aller hier au centre de l'agriculture en disant que c'était honteux que les agriculteurs soient attaqués dans leurs méthodes, etc. Regardez l'abattage sans étourdissement préalable. Qui contrevient d'ailleurs aux règles, aux directives de l'Union européenne.
L'abattage rituel est sans étourdissement.
Vous voyez, là, le problème, c'est que ce sont les agriculteurs qui payent, en termes d'image, une méthode qui est majoritairement rejetée par les Français parce qu'elle est affreusement cruelle pour les animaux. Et elle est cruelle et elle est gratuite. Ça fait des années qu'on aurait dû interdire cet abattage sans étourdissement préalable. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Et ce sont les agriculteurs qui payent, du coup, alors qu'ils n'y sont strictement pour rien.
On
interdit, comme d'autres pays l'ont fait, il est interdit
la Belgique.
Sur le territoire français d'abattre des animaux sans les étourdir préalablement, parce que ça crée ce qu'a montré cette vidéo, mais qui est dans le cas dans des centaines d'abattoirs en France, puisque c'est devenu majoritaire.
Mais c'est
comme
aussi
méthode.
Une filière pour les agriculteurs. Est-ce que du coup, vous
et
allez
imprimer... Vous parlez,
non, mais
vous,
à ce moment-là, ça ferait une perte quand même. Pour les agriculteurs, qu'est-ce que vous faites pour avoir...
Attendez,
je vous pose la question. Est-ce que cette viande qui ne sera pas abattue en France de manière rituelle, est-ce que du coup vous l'importez?
En Belgique, c'est ce qui se passe. Ils importent.
Eh bien, très bien.
Non, mais
c'est très bien.
Donc, c'est une perte pour les agriculteurs.
C'est très bien.
Il faut le faire.
D'autant que je tiens à vous dire quand même qu'en matière de traçabilité et de respect des consommateurs, Comment on sait comment est abattue la viande? Vous le savez, vous, quand vous allez au supermarché faire vos courses? Vous savez si le steak, il a été abattu en faisant souffrir l'animal ou pas? Est-ce que vous le savez? Vous savez que vous avez peut-être payé une taxe de certification à une religion sans même qu'on vous le demande? Est-ce que vous le savez? Non, vous ne le savez pas. Eh bien, tout ça m'apparaît tout à fait contraire, encore une fois, à nos valeurs, à nos choix de société. Donc, sur ce sujet, mon positionnement est très clair.
Et il est, permettez-moi,
très ancien.
Mais on importera donc, je reprends la question de Benjamin Portouche, on importera de la viande venue d'ailleurs.
Oui, s'il faut, oui.
Ok, c'est l'heure de la question en plus.
Le grand jury, la question en plus.
Bonjour Madame Le Pen, Samuel Hérault, porte-parole de l'association L214 Éthique et Animaux. Madame, on vous entend régulièrement dénoncer la souffrance des animaux pour demander l'interdiction de l'abattage sans étourdissement. En revanche, on ne vous entend jamais demander l'interdiction d'autres pratiques cruelles traditionnelles comme le gavage, la chasse à la glu ou la corrida. Je vous remercie, madame, pour votre réponse.
Alors, qu'en est-il, Marine Le Pen, pour la corrida?
Parce que, encore une fois, moi, en ce qui me concerne, à titre personnel, je ne vais pas à la corrida. J'ai réclamé d'ailleurs que ce spectacle soit interdit aux mineurs, parce que je le trouve violent. Il s'avère que c'est une tradition non pas nationale, comme ça a été tenté d'être introduit, mais c'est une tradition régionale. Et je suis donc restée sur ce positionnement-là. Quant au reste, ça m'arrive de dénoncer le broyage des poussins. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'en réalité, on s'aperçoit qu'il y a des méthodes maintenant, que quand on dit une méthode est insupportable, à ce moment-là, les chercheurs cherchent, et figurez-vous, ils trouvent des moyens de connaître le sexe des œufs pour éviter de les naissances et donc le broyage.
Le gavage, il parlait là, le gavage des oies et des canards.
Est-ce qu'on est pour l'interdiction du foie gras? La réponse est non. Enfin, moi, je ne suis pas pour l'interdiction du foie gras.
Autre sujet d'actualité, les annonces par Emmanuel Macron dans sa lutte contre le séparatisme, comme
le
il séparatisme dit désormais.
Le séparatisme islamiste, Gérard. Comme le dit le président de la République. On va rappeler quelques-unes des mesures annoncées cette semaine pour bien savoir de quoi on parle. Le président a indiqué que la France cesserait d'accueillir des imams détachés envoyés par d'autres pays, qu'il mettrait fin à l'accueil de psalmodieurs reçus chaque année durant le ramadan. Il a également annoncé un contrôle renforcé des financements des lieux de culte ou encore la disparition prochaine des enseignements en langue et culture étrangères. Est-ce que ce sont des mesures que vous saluez, Madame Le Pen?
La posture d'Emmanuel Macron dans ce domaine est une imposture. Car les mesures dont il a parlé sont en même temps dérisoires et mensongères.
Pourquoi mensongères?
Mensongères parce que, par exemple, pour l'interdiction des imams étrangers, c'est en 2024, c'est-à-dire quand il ne sera plus président de la République. Donc à ce compte-là, on peut faire beaucoup de promesses.
Les imams en poste.
Voilà. Il en a. D'ailleurs, il a accordé 360 visas de ce type, pas plus tard qu'en mai dernier. Vous voyez, ça, à l'époque, ça ne lui posait pas de difficultés.
Apparemment, les psalmodieurs, c'est pour tout de suite, lors du ramadan. C'est ce qu'il a l'air de dire.
Écoutez, on verra bien. Bon. Sur l'ELCO, alors je ne vous en parle même pas. Quant au financement des mosquées par des fonds étrangers, alors il ne veut pas les supprimer, lui. Hein.
Il veut
les régulariser. Voilà, en réalité, il veut
les contrôler.
Les légitimer, les légaliser en quelque sorte.
Avec une transparence des fonds. D'où viennent ces fonds? Voilà ce à quoi s'est engagé devant la République.
D'accord. Ça ne l'intéressait pas trop de savoir d'où venaient les prédicateurs, parce que si ça l'intéresse, je pourrais lui dire qu'elles viennent du Pakistan, qui est un pays très en accord avec les valeurs, bien entendu, que nous défendons. Hein. C'est terrifiant, ok? Ils viennent d'Arabie Saoudite. Ça l'a pas trop dérangé.
Il y a des prédicateurs du Pakistan et d'Arabie Saoudite.
Les psalmodieurs, ils viennent d'Arabie Saoudite et du Pakistan. Donc, dérisoire. Pour lutter contre le communautarisme, il faut toute une série de mesures. C'est un écosystème qu'il faut intégralement revoir, car les situations, je vous le dis, sont catastrophiques. Ces mesures, elles sont multiples, elles passent d'abord par les frontières, permettez-moi de vous le dire. C'est-à-dire que si on continue avec l'immigration massive, par définition, on va continuer à nourrir le fondamentalisme islamiste, qui est un fondamentalisme d'importation. Voilà, ça c'est la première chose. Il faut expulser les islamistes fichés S. Toujours, rien n'a été décidé sur ce sujet. Il faut fermer les mosquées islamistes. J'ai vu M. Castaner venir se réjouir, il en a fermé deux cette année. Deux sur 100, 120. C'est une véritable honte. C'est se moquer du monde. Il faut dissoudre les associations islamistes. Il faut à nouveau que ce soit le préfet qui donne les agréments pour les associations sportives, ce qui était le cas avant, pour pouvoir vérifier que ce ne sont pas en réalité des associations sportives où se déroule du prosélytisme islamiste. Il y a toujours une
bataille de 100 à 120 mosquées salafistes. D'où vient ce chiffre, Marine Le Pen ?
Du ministère de l'Intérieur, monsieur Sportouche.
Pour vous, c'est un chiffre qui est donné par le ministère de l'Intérieur. Donc ils ne font pas leur travail. Ils détectent, mais ils ne ferment pas.
Ils ne font pas leur travail. Il faut déchoir de la nationalité ceux qui ont été condamnés pour terrorisme ou ceux qui font l'apologie du terrorisme. Il faut vérifier notamment le profil de ceux qui sont embauchés dans la fonction publique et également dans la fonction publique territoriale, ce qui n'est pas le cas.
Vous dites qu'Emmanuel Macron ne veut pas vraiment lutter contre le communautarisme ou le séparatisme ?
Non, mais ni lui, ni celui qui l'a précédé, ni celui qui était encore avant. Ils ont tous parlé de cela et ils n'ont jamais rien fait sur ce sujet.
Pourquoi est-ce qu'il aurait intérêt à ne rien faire, comme vous dites ?
Mais parce qu'il faut du courage. Monsieur Gindre, il faut du courage pour s'attaquer à tout ça. Il faut du courage pour dénoncer les maires qui font des compromissions quotidiennement.
Mais parce qu'ils ont peur, s'il y en a du courage,
c'est difficile pour le président de la République d'aller sur ce sujet quand son premier ministre a inauguré une mosquée qui a été construite, une mosquée de l'UOIF, c'est-à-dire des frères musulmans, qui a été construite sur un terrain donné par la municipalité du Havre et qui a été financée par 200 000 euros en provenance du Qatar. C'est compliqué pour le président de la République d'être face à ces incohérences, face à ces contradictions.
Mais parce que le gouvernement a peur, c'est ça ? Enfin, quand vous dites qu'il faut du courage, c'est qu'ils ont peur d'influence salafiste. Ils se retrouvent face à un ennemi qu'ils ne veulent pas combattre.
Je pense qu'ils n'ont... Vous voyez, le fond de ma pensée, je pense qu'ils n'aiment pas assez les Français pour s'ériger et les protéger des dangers épouvantables que représente le développement du fondamentalisme islamiste dans notre pays.
Sur le financement de mosquées, vous nous avez dit que vous ne vouliez pas de financement étranger, pas de financement public. Qu'est-ce que vous dites d'une taxe halal qui permettrait aux fidèles musulmans de financer leurs mosquées ?
Mais c'est leur problème.
Donc vous n'êtes pas contre ça ?
Mais non, mais ce n'est pas à l'État de faire ça. Enfin, écoutez, je vous rappelle quand même la loi de 1905. Ouais. La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Ce serait bien d'ailleurs de rappeler ça aux maires et aux préfets pour qu'ils protègent les maires qui, eux, sont de bonne foi. Bon, il faut quand même rappeler cela. Et moi, je l'ai proposé il y a longtemps, j'ai réclamé la mise sous tutelle, d'ailleurs, des municipalités qui s'étaient compromis avec le fondamentalisme islamiste. Vous avez vu que M. Lagarde a été attrapé aux pattes par un livre sur des faits que l'on connaît depuis très longtemps. Est-ce que, par exemple, les LR ont indiqué qu'il ne passerait plus d'accords électoraux au municipal avec l'UDI à la suite de ces révélations qui sont très graves? Non.
Mais Marine Le Pen, comme si vous arrivez
donc,
au pouvoir...
Beaucoup de mots et peu de...
Si vous arrivez au pouvoir, est-ce que vous empêcherez que d'autres mosquées soient construites? Dites-nous exactement, est-ce qu'il y aura toujours des terrains qui pourront être accordés par les municipalités à la construction de mosquées? Dans quelles conditions?
La question n'est pas là. La question, c'est que municipalités n'ont pas le droit de mettre à disposition gratuitement, de donner ou d'accorder des baux emphytéotiques pour construire des mosquées. C'est contraire à la loi de 1905.
Donc elles sont toutes en inégalité. Beaucoup l'ont fait. Donc
oui.
Est-ce que vous reviendriez
toutes
là-dessus?
Celles qui l'ont fait sont dans l'inégalité.
Est-ce que vous reviendriez là-dessus, Marine Le Pen? C'est-à-dire vous levez les baux emphytéotiques. Du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de mosquées, et pas que des mosquées, des synagogues également, qui devront, qui ne seront plus légales.
Qui devront payer un loyer.
Donc vous ferez payer.
D'accord. Le problème, si vous voulez, c'est qu'encore une fois, on a trop accepté dans ce domaine. Mais ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Car, pour être tout à fait honnête, une grande partie du tissu social est aujourd'hui entre les mains des islamistes.
Et pour vous, il y a une forme de connivence de l'État, c'est ce que vous nous dites. On a l'impression que vous nous parlez d'une forme de connivence. Très rapidement, on arrive à la pause.
Mais oui,
du gouvernement
mille
Macron
fois oui.
Et d'Emmanuel Macron.
Écoutez, quand M. Emmanuel Macron vient nous dire « Je vais lutter contre le séparatisme en m'appuyant sur le CFCM », mais c'est un gag. Est-ce que c'est un gag? C'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur une structure dont le délégué général, M. Sekri, nous a expliqué il y a quelques jours que si la jeune Mila de 16 ans était menacée de viol et d'égorgement, c'était en gros bien fait pour elle, elle l'avait bien cherché. Il va s'appuyer sur M. Sekri qui en 2017 nous avait dit « Mais l'assimilation, c'est épouvantable, si vous vous assimilez, disait-il... » Non, je vous termine la phrase. Elle vaut le coup, elle vaut le déplacement. Il avait dit « Si vous vous assimilez, vous devenez moins que rien, vous devenez un Français. C'est sur cet homme-là, sur cette structure-là, que M. Macron va s'appuyer. Alors moi, je vais vous dire, la première des choses à faire, c'est de déterminer que toutes les organisations fréristes, c'est-à-dire attachées aux frères musulmans, ou salafistes, eh bien, il faut aujourd'hui les dissoudre. Et on réglera, croyez-moi, le problème du fondamentalisme
islamiste. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury de Marine Le Pen. À tout de suite.
Grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés, Adrien Jean de TF1 LCI, Alexis Brézé du Figaro, qui vous pose la première question de cette seconde partie.
Sur la réforme des retraites, qui est en ce moment en discussion à l'Assemblée, il y a des dizaines de milliers d'amendements qui sont déposés principalement par la France Insoumise et par les communistes. Et on sent que le gouvernement, pour répondre à ça, va utiliser l'article 49.3 de la Constitution. Est-ce que ça vous choque ou est-ce que vous dites, après tout, c'est prévu par les institutions et on peut l'utiliser ?
Ça me choque parce que, si vous voulez, déjà, ils nous ont refusé le référendum sur la réforme des retraites et maintenant, ils voudraient nous refuser le débat, en réalité. Qu'est-ce qui
pousse... Et on peut en parler pendant des semaines et des semaines.
Et alors ? Il s'agit là d'une réforme qui touche à la période de la vie des millions de Français après qu'ils aient arrêté de travailler. C'est un sujet majeur, c'est un des piliers de notre protection sociale. Et on ne peut pas se donner quelques semaines pour en discuter.
Aujourd'hui, ces amendements, vous voyez bien qu'il y en a qui sont... On change juste une virgule, un mot, une lettre. Et donc, c'est fait pour faire de l'obstruction.
Oui, mais en réalité...
Pour un grand nombre d'entre eux.
Oui, mais en réalité, non. Parce que vous vous apercevez qu'au soutien des amendements, il y a quand même des vrais sujets de fond qui sont posés. Et qui sont des sujets incroyablement importants. Parce qu'au moment où on se parle, le cœur nucléaire, si je puis me permettre, de la réforme, qui est un cœur fou, en fait, hein, reste... cette réforme dont on nous avait vendu qu'elle serait simple est un foutoir et une opacité totale. Il devait être universel. En réalité, on voit se multiplier le retour des régimes spécifiques, c'est-à-dire des régimes spéciaux. Le dernier en date étant celui des salariés de la Banque de France. Ça devait être juste. C'est une succession de mensonges. Parce qu'il y a des mensonges très lourds qui ont été exprimés dans cette réforme. Quand le Premier ministre avait dit que la revalorisation du point s'effectuerait sur les salaires.
Les salaires
Sur les salaires, c'est donc sur les salaires du privé, c'est à peu près 3,5% de revalorisation. C'est quand même beaucoup. Et là, aujourd'hui, on vient nous inventer un revenu moyen par tête qui n'existe pas. Enfin, tout est une succession de mensonges dans ce dossier. Je ne parle même pas de la retraite à 1000 euros qu'on a survendue, que le gouvernement a survendue, pour qu'après Emmanuel Macron, devant les députés,
dise que le gouvernement renonce finalement. Vous pensez que le gouvernement peut encore renoncer ?
Je pense qu'il peut renoncer. J'espère qu'il va renoncer. Mais ce que je souhaite surtout, c'est qu'il mette en œuvre un référendum. Écoutez, c'est un sujet sur lequel les Français doivent pouvoir s'exprimer. Ils doivent pouvoir dire s'ils sont d'accord ou pas d'accord. J'ai été effondré, d'entendre la porte-parole du gouvernement venir nous expliquer qu'il faudrait faire 65 référendums différents. Non mais sur quelle planète vit-elle ? La réalité, c'est que gouvernement propose une réforme. Eh bien, il soumet dans sa globalité la réforme aux Français. Alors, les Français
Adrien
disent oui ou les Français disent non. Comme la Constitution en 2005.
On voit que dans cette question de réforme des retraites, il y a aussi toute une dimension du financement qui est extrêmement compliquée.
C'est moins qu'on puisse dire.
Vous, si je ne dis pas de bêtises, vous êtes pour une retraite que l'on pourrait prendre après 40 annuités.
Oui.
Dans ce cas-là, puisqu'il y a un vrai enjeu financier, comment est-ce qu'on finance la retraite des Français s'ils partent en retraite après 40 annuités ? Est-ce qu'on augmente les cotisations ? Est-ce qu'on baisse les pensions ? Où est-ce qu'on trouve cet argent ? Puisque ça voudrait dire partir à la retraite plus tôt qu'aujourd'hui.
C'est le triangle des Bermudes du MEDEF, là, hein, dont ils veulent absolument pas qu'on sorte.
Non, il y a d'autres. Expliquez-nous.
Il y a d'autres moyens. C'est d'abord de créer de l'emploi. Parce que figurez-vous que ce qui finance notre système de retraite, ce sont les cotisations des salariés.
C'est exactement ce que fait Emmanuel Macron avec
un taux de chômage qui diminue. Moins il y a de salariés, c'est-à-dire plus il y a de chômage, et en réalité, moins il y a de recettes pour l'État. On arrête, par exemple, le travail détaché. Parce qu'il y a aujourd'hui, au moment où je vous parle, dans notre pays, il y a 500 000 contrats qui ne cotisent pas à notre système de retraite, mais qui cotisent dans leur pays d'origine. C'est autant de recettes que nous perdons. Bon. Il faut aussi faire des économies sur les gigantesques fraudes dont les Français sont victimes. Je ferai d'ici quelques semaines un livre blanc sur les fraudes. Je peux vous dire que quand vous passez de la fraude à l'importation alimentaire à la fraude sociale avec les 2,4 millions de cartes vitales en circulation active qui ne correspondent à personne, aux ententes de la grande distribution et des grands groupes multinationaux, avec tout ça, vous avez très sincèrement de quoi dégager non pas des milliards, des dizaines de milliards qui sont volés chaque année.
Vous restez sur la retraite à 60 ans, possiblement si on atteint 40 annuités, ce qui aujourd'hui ne peut se faire qu'avant 62 ans. C'est bien ça, Marine Le Pen.
C'est exactement ça. Les 40 annuités, et à partir du moment où vous avez vos 40 annuités, vous pouvez partir à 60 ans.
Et vous avez chiffré le surcoût budgétaire ou pas?
Nous l'avions fait pendant la campagne présidentielle. Ça n'est pas une nouveauté, cette
proposition. De combien est-il, ce surcoût?
Écoutez, de mémoire, je ne peux pas vous dire. Je ne me souviens plus du montant. Mais tout ça était sur nos, encore une fois, sur les éléments de chiffrage que nous avions donnés, qui étaient à l'équilibre, d'ailleurs, pendant l'élection présidentielle. Mais même s'il y avait un déficit, Monsieur Sportouche, moi je voudrais dire ça parce que c'est important. Même s'il y avait un déficit, parce qu'on parle de 8 milliards de déficit par an en 2025, eh bien il faut l'assumer. Moi je pense que là aussi c'est un choix de société. Comment vivent nos aînés? Est-ce qu'ils doivent devenir pauvres parce qu'il faut absolument respecter une règle budgétaire que par ailleurs on n'exige pas dans d'autres domaines? Eh bien, s'il faut faire un effort et s'il faut qu'il y ait un déficit pour que nos retraités ne soient pas pauvres, alors moi je pense que la société française fera ce choix-là. Vous voyez? Et comme c'est son argent, figurez-vous,
alors, Marine
Le Pen, ce serait bien qu'on
si
lui pose la question.
Si vous arrivez aux responsabilités, vous serez amené à gérer le budget de la France et vous avez, dans votre parti, et certains s'interrogent, des difficultés financières. Alors, les Français se disent, mais est-ce que c'est un bon exemple que de ne pas pouvoir gérer sainement les recettes de son parti et de prétendre gérer la France? Que répondez-vous?
Je rappelle que
vous avez un déficit cumulé de 19 millions d'euros, Marine Le Pen.
À la différence de la France, nous n'avons pas accès aux banques. Ce qui change tout. Et certes, nous avons des difficultés financières, mais qui sont la conséquence de l'injustice totale dont nous sommes victimes.
Mais parce qu'il faut forcément emprunter pour bien gérer.
Bien sûr, il faut emprunter pour pouvoir faire des campagnes, Monsieur Jeanne, pour pouvoir en être remboursé. Sauf que les intérêts que vous empruntez à une banque, ils vous sont remboursés par l'État. Et nous, comme nous ne pouvons pas emprunter à des banques et que nous empruntons aux Français, eh bien, les intérêts que nous leur versons ne sont pas remboursés par l'État. Je vais vous donner juste un chiffre pour la présidentielle. Vous savez combien ça nous a coûté, ça, d'injustice par rapport aux autres candidats? 800 000 euros d'intérêts que nous avons dû, évidemment, payer de notre poche. Eh bien, d'élection en élection, à cause de ce système-là, nous nous appauvrissons. Alors, nous allons nous tourner...
Vous êtes un parti en croissance. On le voit dans le résultat électoral, vous en êtes contente. Et normalement, vous avez plus de contributions, vous avez plus de financement public, vous avez plus d'élus, de contributions des élus, plus de cotisations. Comment vous faites toujours plus de recettes à faire plus de déficits? Il y a un truc qui n'est pas compréhensible.
Mais Monsieur Brézet, vous nous parlez de nos 6 députés?
Il n'y a pas que les députés, il y a une partie du financement qui est attachée aux voix.
Est-ce que vous nous parlez, parce que moi j'aimerais bien. Donc on va expliquer aux Français qui nous écoutent.
5 millions de
les subventions publiques sont coupées en deux. Une partie, c'est le nombre de voix vous faites. Oui, d'accord. Et l'autre partie, c'est le nombre d'élus. Enfin, le nombre de députés. Et comme nous sommes victimes du scandale du mode de scrutin qui fait que, premier parti de France, nous avons 6 députés en tout et pour tout pour défendre les millions de Français qui votent pour nous, eh bien, nous sommes amputés de la moitié des subventions des autres mouvements. Donc, nous sommes un parti pauvre, mais je vais vous dire, c'est notre fierté.
Est-ce que vous
ça
devriez...
ne nous dérange pas de le dire. Nous sommes un parti pauvre. Monsieur Macron et Monsieur Édouard Philippe s'étaient engagés et ont fait voter une loi à la demande de Monsieur Bayrou pour créer une banque de la démocratie. Eh bien, cette banque de la démocratie, elle a été votée et elle a été immédiatement mise à la corbeille. Voilà. C'est mais un scandale et c'est véritablement volontaire.
Est-ce que vous devriez pas
gêner
faire
les mouvements
des économies aussi dans votre gestion? Vous-même, vous touchez un salaire en complément, Marine Le Pen, de votre indemnité parlementaire.
Non, je ne touche pas de salaire.
Vous ne touchez pas de salaire?
Non, je touche des remboursements de frais, monsieur.
de 60 000 euros par an à peu près, c'est ça qui est, donc, est-ce que ça, vous pouvez faire un effort pour, que, pour les finances de votre parti?
Oui, monsieur, très honnêtement, si je suis à ce niveau de remboursement de frais, c'est que j'ai des frais en tant que présidente de mon mouvement. Et ce que je ne voudrais pas, voyez-vous, c'est qu'on m'explique que je viole la loi parce que je fais des déjeuners et que je prends ça sur mon IRFM de député, que je paye mes déplacements avec mon IRFM de député alors que le déplacement se fait comme présidente. Donc oui, je sépare bien et j'en suis fière et je respecte la loi pour ça. Je sépare bien mes activités de présidente du mouvement qui sont payées par le mouvement et mes activités de député qui sont payées par mon IRFM.
Il y a un risque que le Rassemblement national se retrouve en cessation de paiement ? Il y a un risque de financier de faillite du parti ?
Non, je ne le crois pas. Très honnêtement, je ne le crois pas parce que nous lançons un grand emprunt national auprès de nos compatriotes que nous allons rémunérer à 5%, c'est-à-dire 10 fois plus que la rémunération du livret A.
Mais c'est ça, parce que
c'est très intéressant.
Mais comment vous faites pour rémunérer à 5% alors qu'aujourd'hui, le moindre emprunt, c'est 1% au maximum ?
Eh bien, justement, parce que nous avons besoin de financer notre mouvement et donc nous allons nous tourner vers les Français. Nous allons leur offrir d'ailleurs des garanties appuyées sur notre subvention, de subventions futures pour pouvoir continuer à défendre leurs idées, parce que c'est ça en réalité.
Marine Le Pen, nous faisons de la politique avec cet argent. Combien avez-vous récolté ?
Nous faisons
vous l'avez
absolument
lancé il y a deux
rien
semaines.
D'autre.
Est-ce que vous avez lancé cette collecte à commencer ? Est-ce que vous pouvez nous dire combien vous avez récolté à ce jour ?
Je veux bien tout vous dire combien. Non, on n'a pas démarré en l'occurrence.
D'accord. Quand est-ce que vous démarrez ?
Mais moi, j'aime la transparence. Je voudrais qu'elle s'applique aussi à l'ensemble des médias d'ailleurs. Savoir qui est payé quoi, pour faire quoi une fois par semaine, des trucs comme ça quoi.
C'est l'heure de Question Express.
Le grand jury, Question Express.
Pour ou contre Marine Le Pen, la suppression du statut de réfugié politique pour Piotr Pawlinski ?
Mais évidemment que oui. Évidemment que oui, mais pas que lui. Ce qui est quand même incroyable dans notre pays, c'est qu'il suffit qu'un ministre soit victime de quelqu'un qui a obtenu l'asile et qui se comporte absolument n'importe quoi en violant toutes les règles de notre pays. Mais en revanche, toutes les victimes de viols, de meurtres, de séquestrations, de cambriolages par des demandeurs d'asile ou par des gens qui ont obtenu l'asile, eux, ils devraient continuer à financer leur présence sur le
Marine
territoire.
Le Pen, vous
Donc, clairement, pour moi, les choses sont claires. Un, on a donné l'asile n'importe comment, et monsieur, ce monsieur russe en est la démonstration. Et deuxièmement, quand on vient demander l'asile et qu'on l'obtient, on se comporte de manière impeccable dans le pays. Sinon, on repart de là où on est venu.
Pour ou contre, Marine Le Pen, la réouverture de Fessenheim ?
Je suis pour... on peut pas. C'est fermé, mon pauvre monsieur. Oui, on n'ouvre pas, c'est pas un robinet de gaz.
Vous regrettez qu'elle ait été fermée.
Voilà, d'accord. Parce que c'est pas la gazinière. Hein. Et il est éteint, c'est fini, c'est terminé. Et c'est un véritable scandale parce que c'est une décision politique.
Donc vous êtes pour le nucléaire, Marine Le Pen ?
Oui, je suis pour le nucléaire.
Parce que vous avez cru penser que quand en 2016, vous étiez, c'est une énergie dangereuse.
Mais oui, bien sûr, c'est une énergie qui potentiellement comporte des dangers. Mais pour l'instant, c'est une énergie qui est décarbonée. Donc, sur le plan écologique, c'est évidemment beaucoup plus intéressant que les épouvantables milliers d'éoliennes qui sont en train de nous coller partout et dont on nous explique que c'est une énergie verte. J'aimerais bien savoir par quel bout, parce qu'il y a quand même 1200 mètres cubes de béton sur 18 mètres qu'on coule dans des champs. On est incapable, d'ailleurs, de traiter, même les pales, vous voyez, les pales des éoliennes, c'est ce qu'on en fait ? Ben, on les enterre. C'est bien, c'est écologique, ça. Hein ? Bon, donc oui, bien sûr, je suis pour le nucléaire. Non, il ne fallait pas fermer Fessenheim. C'est une décision politique et pas du tout une question de sécurité, puisque d'ailleurs, je vous donne cette information, la petite sœur jumelle de Fessenheim, elle est actuellement aux États-Unis, à Beaver Valley, et en l'occurrence, elle a été, par l'agence de sécurité américaine, elle a été prolongée jusqu'en 2040.
Pour ou contre, Marie Demet, la suppression de l'ENA ? Puisqu'il y a un rapport qui a été rendu cette semaine pour sa refondation. Est-ce que vous êtes pour ou contre la suppression de l'ENA ?
Oui, je pense qu'il faudrait, effectivement la refonder, mais pas selon les pistes qui ont été abordées là.
Alors, nous en venons au municipal. Et une première question, Adrien, sur Paris.
Il y a un candidat qui est soutenu par le Rassemblement national, Serge Federbouche. On voit en même temps qu'il y a un mouvement autour de Rachida Dati. Les dernières enquêtes d'opinion l'accréditent de bonnes intentions de vote. Est-ce que votre candidat pourra éventuellement au second tour soutenir Rachida Dati pour qu'une politique centrée sur la sécurité et la propreté puisse voir le jour à Paris ?
excusez-moi de sourire, mais toutes les deux, elles sont sur le même créneau.
Toutes les deux.
Buzyn et Rachida Dati, aujourd'hui il y a deux quotidiens, il y en a une c'est propre et sûr et l'autre c'est sûr et propre, quoi. Bon. Donc,
mais c'est
on verra.
Blanc bonnet et bonnet blanc pour vous.
Mais nous verrons comment se déroulera le second tour. Ce qui est sûr, c'est que la politique qui a été menée par Madame Hidalgo est un drame pour notre capitale et pour ses habitants. Ça, c'est une certitude. Voilà.
Est-ce que Marine Le Pen, concernant Perpignan, puisque c'est l'une des villes que vous visez au municipal, Louis Alliot part sans étiquette Rassemblement National. Est-ce que cela doit, à l'avenir, devenir une règle? Est-ce que vous-même, en 2022, vous partirez sans étiquette Rassemblement National?
Bon, alors, Monsieur Sportouche, une élection présidentielle et une élection municipale, ça n'a strictement rien à voir. Parce qu'une élection municipale, ça peut être une élection de parti, une élection présidentielle ne l'est jamais.
En l'occurrence, on dit souvent qu'il
donc, c'est un candidat,
vous pouvez avoir
on n'est jamais
il n'y a pas
candidat, on n'est jamais alors, candidat de son parti au présidentiel, on est le candidat soutenu par un parti au présidentiel. Ça, c'est une première chose.
Non, mais vous aviez été soutenu.
Deuxièmement,
est-ce
ça
que
dépend,
vous pourriez vous en
ça
retirer
dépend de la notoriété. Louis Alliot, si vous voulez, c'est la bouteille de coca sans l'étiquette, quoi. C'est-à-dire que même sans l'étiquette, vous la reconnaissez quand même, quoi. Il est membre du bureau exécutif depuis de très nombreuses années.
Donc, il a
des responsabilités très importantes au sein du mouvement. Il fait une grande liste de rassemblements, comme l'avait fait Jacques Perra, d'ailleurs, à Nice, à l'époque. Il avait gagné. Donc, c'est assez différent. En tout cas, on ne peut
c'est
pas.
C'est pas parce que l'étiquette RN est encore trop lourd à porter.
C'est pas pour ça.
C'est pas parce que l'étiquette RN est encore trop lourd à porter pour des scrutins de proximité.
Mais
vous.
Pas du tout, puisque vous avez énormément de villes aujourd'hui où il y a des candidats Rassemblement National ou soutenus par le Rassemblement National. Et figurez-vous, on vient même nous demander notre soutien. Donc c'est non. Oui, il y a même des candidats qui viennent de quitter les majorités LR, par exemple, qui viennent nous demander le soutien du Rassemblement National. C'est qu'a priori, ça apporte des voix.
Donc
quand
il
n'y
aura plus de Front Républicain, Marine Le Pen. Les choses évoluent à ce point-là?
Oh, j'irai peut-être pas jusque-là, parce que un certain nombre se sont encore fait harakiri aux dernières régionales. Notamment le Parti Socialiste, pour nous empêcher de gagner des régions. Donc, ils tenteront peut-être de le faire. La vraie question n'est pas là. Est-ce que les responsables politiques perdront leurs mauvaises habitudes? J'en suis pas convaincu. Est-ce que les électeurs les suivront encore? Ça, c'est une autre question.
Est-ce que Marine Le Pen, vous-même, puisque vous êtes candidate en 2022, je le disais en introduction de cette émission, pourquoi être partie aussi tôt? Est-ce que c'est pour, par exemple, avoir des mécènes pour votre campagne? On peut se poser la question, puisque vous avez un problème de financement de votre parti. Est-ce que c'est pour assécher toute concurrence? On parlait de Marion Maréchal, on parle du général de Villiers, on parle d'autres candidatures du côté...
Oui, on parle même de Hanouna, vous voyez.
Alors, globalement, est-ce que c'est pour être hégémonique dans votre camp?
Non, pas du tout, monsieur Sportouche. J'ai annoncé ma candidature d'abord parce que j'ai pris ma décision. Et figurez-vous qu'à la différence des autres responsables politiques, moi, je joue pas la fausseté hypocrite consistant à dire je réfléchis, je ne sais pas, j'attends qu'on m'appelle, enfin je ne sais quoi. Je pense que les adhérents du mouvement aujourd'hui souhaitent que je sois candidate. Et par conséquent, je présenterai cette candidature devant eux au prochain congrès. Et puis surtout, je pense que les Français ont besoin d'espoir. Ils ont besoin de voir une lumière au bout du tunnel.
Et quand ils vous disent les Français qu'ils ne veulent pas du duel,
politique qui est menée par Emmanuel Macron.
Ils ne veulent pas du duel entre vous et Emmanuel Macron. Ils sont 59% à penser qu'il se produira tout de même, mais 8 Français sur 10 rejettent cette éventualité-là. Est-ce que ce n'est pas un désaveu pour vous également?
Il faut qu'ils arrêtent de voter pour Emmanuel Macron, hein, c'est tout.
Non, mais ils ne veulent pas de duel entre vous et lui.
Bah oui, bah justement, il faut qu'ils arrêtent de voter pour lui.
Et si vous perdez...
Et comme ça, il y aura Marine Le Pen contre quelqu'un d'autre.
Donc Marine Le Pen toute seule, oui, mais ce n'est plus une élection, Marine Le Pen. Adrien,
juste une question. Est-ce que vous laisserez de côté la présidence du Rassemblement National pour être candidate?
J'y réfléchis.
À l'abandonner, la présidence.
Et à la confier à un proche.
Je réfléchis à pouvoir me présenter comme candidate de tous les Français, en étant évidemment soutenue par mon mouvement.
Et si vous perdez en 2022, que vous n'êtes pas élu président de la République, est-ce que ce sera votre dernière
campagne?
C'est
le temps de l'obsolescence programmée.
Bah, c'est la question.
Vous cherchez à jeter les candidats après chaque élection.
Puisque vous êtes transparente et vous l'êtes honnête, Marine Le Pen, vous dites je suis honnête face aux Français.
À chaque élection.
Je ne sais pas. Ça dépendra de ce que souhaitent les adhérents de mon mouvement. Car voyez-vous, il y a une démocratie interne dans notre mouvement. Ce sont les adhérents qui choisissent le candidat à la présidentielle, puisque nous ne passons pas par les primaires.
Vous pouvez leur dire en tout cas, voilà, c'est ma dernière campagne et si je suis en échec, il faudra que vous trouviez quelqu'un d'autre. Est-ce que ça, c'est une option?
Mais tout est une option, monsieur Sportouche. On est à 2 ans et demi de cette élection, vous le disiez vous-même. Tout est une option. Mais en l'occurrence, si vous voulez, ce sont les adhérents qui, de toute façon, auront peut-être le dernier mot.
Donc ça veut dire que vous vous représenteriez devant eux
en
cas d'échec.
Nous verrons. Moi, je vais vous dire, au moment où je vous parle aujourd'hui, je pense que nous avons des grandes chances de pouvoir appliquer nos idées, car j'ai de grandes chances d'être présidente de la République. Voilà. Parce que je pense que les Français en ont soupé de la situation. Je pense qu'ils ont compris maintenant qu'il faut arrêter avec l'ultralibéralisme, la concurrence déloyale, l'immigration de masse, l'insécurité, le laxisme, le n'importe quoi, l'entre-soi de nos élites, la finance internationale. Il faut arrêter avec tout cela. Et donc, je pense que beaucoup sont prêts aujourd'hui à tenter une autre politique, une alternative à la politique menée par Emmanuel Macron.
C'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, questions nettes.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous, bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Alors, plusieurs responsables politiques durant cette semaine ont demandé la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Donc vous vous en doutez, ça a eu un fort écho sur Twitter et sur Facebook. Et vous-même, selon plusieurs articles de presse, vous auriez un compte Twitter anonyme qui s'appellerait Anne Lalanne. Anne, votre deuxième prénom, Lalanne, le prénom de jeune fille de votre mère. Et on peut notamment y lire des tweets sur l'actualité, des messages contre le gouvernement et beaucoup de messages de soutien au Rassemblement National. Vous avez nié à plusieurs reprises être derrière ce compte anonyme. Est-ce que vous confirmez, puisque tout porterait à croire que c'est vous, est-ce que vous confirmez que vous êtes derrière ce compte ?
Ça n'a pas duré longtemps, la protection de la vie privée, pour finir. Hein, c'était une indignation qui s'est arrêtée au bout de quelques heures. Moi, je suis.
C'est votre
pour moi,
c'est
je,
vous,
suis,
alors,
je ne
compte.
Suis pas
si c'est
pour
votre vie privée, c'est bien.
Non, mais je ne suis pas pour la suppression de l'anonymat.
Ah, donc voilà, c'est votre compte, Marine Le Pen.
En revanche, je suis frappée et très inquiète de voir que les responsables politiques prennent n'importe quelle excuse, et notamment l'affaire Griveaux, dans laquelle juste absolument personne n'était anonyme, pour essayer à chaque fois de censurer les réseaux sociaux, de censurer le net, de limiter la propagation des
mais
idées.
C'est une erreur de faire l'anonymat sur les réseaux sociaux.
Mais c'est totalement une erreur.
Mais pourquoi avoir un compte
mais d'ailleurs,
anonyme,
c'est pas
Marine
anonyme un compte, c'est pas vrai. Si demain, si demain.
Mais Anne Lalanne, c'est pas. Dites-nous, pourquoi est-il nécessaire que vous ayez un deuxième compte?
Pourquoi il est nécessaire que vous preniez la parole de votre collègue qui faisait son boulot très bien?
Mais je vous pose la question aussi, parce que j'aimerais bien qu'on ait la réponse.
Si vous voulez qu'on parle de sexisme, on peut en parler, mais laissez-la parler.
Écoutez, on est côte à côte et on fait notre travail de manière conjointe.
Croyez-moi, il est parfaitement capable de poser ses questions toute seule. Si vous commettez une injure sur les réseaux sociaux, on peut très bien lever votre anonymat, vous portez plainte contre un compte, la police recherche qui est le responsable du compte et il le trouve, croyez-moi.
Vous, ça suffit.
Il le trouve et ça suffit largement. Parce que, encore une fois, la liberté d'expression nécessite que les idées se véhiculent, transitent, s'échangent et tout ce qui vise, comme le fait la loi Avia d'ailleurs, à limiter, à censurer la parole est catastrophique. Au passage, Madame Avia, Madame Avia, qui a fait voter une loi contre les contenus haineux et qui trouve très bien un tweet de Monsieur Sopo, le président de SOS Racisme, qui, en parlant d'un responsable du Rassemblement National français d'origine égyptienne, dit que le traité de chameau, c'est une injure contre les chameaux. Elle trouve ça très bien, Madame Avia, vous voyez. Eh bien, moi, ça, je trouve ça haineux.
Question, Marie-Pierre Haddad.
Oui, dans l'actualité, il y a aussi eu la candidature de Pénélope Fillon, qui est sur une liste pour les élections municipales dans la Sarthe. Et tout ça alors que commence demain son procès dans l'affaire des emplois présumés fictifs. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une contradiction selon vous ? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous dérange, par exemple, qu'elle soit engagée en politique ou pas ?
Moi, je crois à la présomption d'innocence, madame. C'est un des grands principes, une des grandes valeurs.
Alors que demain,
c'est une des grandes valeurs de la France, la présomption d'innocence. Ça peut nous déranger, vous pouvez avoir un avis sur sa culpabilité ou pas. Ça s'appelle la présomption d'innocence. Et par conséquent, elle peut se présenter aux élections municipales et elle pourra même l'être si elle est condamnée, tant qu'elle n'a pas été définitivement condamné à une inéligibilité.
Merci Marine Le Pen, c'était votre grand jury. Merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine, à la semaine prochaine.